RTL, il est 9h.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi.
Le cinéma français qui fut à la peine cet été est à l'honneur en ce mercredi. Stéphane Boutsock retient trois films qui arrivent en salle aujourd'hui. On les découvre dans un instant. Nous irons faire un tour en Corée du Nord. La bande dessinée RTL de la rentrée s'intitule L'anniversaire de Kim Jong-il. Un album coup de poing, nous dira Monique Younes, qui décrit à travers le regard d'un enfant la puissance de la propagande du régime nord-coréen. Et cadeau, nous vous offrirons cette bande dessinée au 3210. Je salue le retour des Express de Laissez-vous tenter. Nos dernières informations livrées par Charlotte Arrigoni. Tout en forme et en couleur. Et puis nous jetterons un œil sur les programmes de notre soirée télé avec Isabelle Morini-Bosque, elle aussi en grande forme.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Le cinéma, donc, pour commencer avec vous, Stéphane Boutsock, bonjour.
Bonjour à tous.
Et puisque c'est la rentrée, bien c'est aussi le moment de faire le bilan de l'été. Dites-nous quels sont les films qui ont marché dans nos salles et ceux qui ont eu moins de succès.
Alors, il y a trois grands vainqueurs qui sont clairement au-dessus du lot et d'ailleurs des 3 millions d'entrées. Le Monde de Dory, Camping 3, vous noterez que ce sont deux films RTL, oui. Et L'Âge de Glace 5, vous noterez aussi qu'il s'agit de trois suites. Derrière, beau succès pour un autre film d'animation qui s'appelle Comme des Bêtes et qui s'approche lui aussi des 3 millions. Et puis on trouve après Suicide Squad, c'est la réunion des méchants de l'univers Batman-Superman, et Insaisissable 2. Là, on est autour des 2 millions de spectateurs. Alors vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de films français.
Non, je vous le dis d'ailleurs. Oui.
Vous avez raison. Morne pleine de ce côté-là, avec même de gros revers comme Mocha, pourtant. Très beau casting, Nathalie Baye, Emmanuel Devos, c'est sorti en plein milieu de l'été. On sera au final en dessous des 150 000 entrées, ce qui est vraiment un très très gros revers. Et puis il y a des échecs chez certains favoris. Je pense au dernier Star Trek qui n'a pas marché, au remake de Peter Elliot le Dragon de Disney, et même du Bon Gros Géant de Spielberg. C'est un film RTL, mais il faut reconnaître aussi quand ça ne marche pas. Là, on restera sous la barre des 800 000, ce qui est rarement arrivé à Steven Spielberg.
Alors, vous nous disiez, Stéphane, que le cinéma français avait souffert durant ces dernières semaines. Il y a, à partir de ce matin, de bonnes chances que la situation s'arrange, avec des sorties qui vous plaisent beaucoup.
Alors, on va commencer par un film dont je vous parlais lundi à Angoulême, car ça a été une des bonnes surprises du Festival du film francophone. Un petit boulot, le film posthume de Pascal Chaumeil, qui retrouve son interprète de l'arnaqueur, Romain Duris, dans un thriller à l'humour noir assez décapant. Michel Blanc, qui a coécrit d'ailleurs au passage l'affaire, joue un caïd de province qui va engager un ouvrier au chômage pour liquider sa femme infidèle. D'abord réticent, le garçon va petit à petit se prendre au jeu tout en restant un amateur maladroit. Ça ressemble franchement à du Blier sauce British. Romain Duris joue à la perfection ce tueur en devenir.
Fallait pas le rendre trop professionnel trop tôt. C'est pas que je sais comment faire un tueur, mais disons qu'il y a une aisance comme ça. Et je me rappelle parfois plusieurs séquences, notamment celle où je tue Brecht, le patron de la station-service qu'on déteste. C'était un peu trop habile, donc il fallait revenir vers quelque chose de plus maladroit. On faisait attention à ce que le personnage comme ça se développe petit à petit, il devienne de plus en plus pro et même jusqu'à faire flipper Gardeau à la fin parce qu'il a même des idées assez obscures, quoi.
Gardeau, c'est Michel Blanc. Romain Duris joue donc ce tueur à gages. Il y a aussi Alex Lutz ou Gustave Kerven dans ce petit boulot de Pascal Chaumeil. Ça sort aujourd'hui au cinéma.
Autre film français attendu, Stéphane, Nocturama de Bertrand Bonello.
Alors là, on est dans un genre radicalement différent. Le réalisateur de Saint-Laurent avec Gaspard Ulliel propose une fresque assez fascinante sur une jeunesse en colère, en perte de repères. Des garçons, des filles, de tout milieu, qui décident de poser des bombes dans Paris avant de se retrancher dans un grand magasin la nuit. C'est un film, il faut le préciser, c'est important, auquel Bonello pensait depuis 5 ans. Film qui a été rattrapé, évidemment, par les attentats qui ont touché la France depuis. Film qui se veut le signal d'alarme d'une jeunesse en disant le désespoir et la désillusion de cette partie de la population face à la crise et au modèle de société, et qui rejoint dans ses méthodes la folie djihadiste. C'est le reflet d'une époque violente et troublée, d'après Bertrand Bonello.
Quand je dis j'ai commencé en 2010, j'étais en train de travailler sur un film d'époque qui s'appelait La Polonide, et j'avais en même temps une envie de revenir très vite au contemporain. Et donc mon ressenti du contemporain, c'était un peu ça, c'était quelque chose qui explose. C'était quelque chose qui était tellement tendu que ça a explosé. Et à partir de là, une envie de faire un film quelque part politique, mais en tout cas qui ne passe pas par le discours et qui passe plutôt par, par le geste, l'action. Et ça se traduit par, ça pourrait être à cause de ci, de ça ou d'autres choses, mais de toute manière, ça devait arriver. C'est une espèce de constat un peu général de ce climat lourd que je sentais et que, évidemment, je sens encore.
Nocturama de Bertrand Bonello avec des jeunes comédiens assez épatants dont certains débutent là devant sa caméra. Alors ça se regarde parfois un tout petit peu filmé, mais il a vraiment du talent, Bonello. C'est un travail qui mérite le coup d'œil. Je vous signale aussi la sortie de Divine de Ouda Benyamina. Ça avait secoué le dernier Festival de Cannes, reçu la caméra d'or du meilleur film. C'est assez mérité d'ailleurs. Le quotidien violent, sensuel d'une bande de jeunes filles de banlieue confrontées aux rêves de lendemain qui chantent et de grand amour. Je ne suis pas aussi dithyrambique que la plupart de mes camarades de la presse, mais ça mérite là aussi le coup d'œil.
Et vous terminez, Stéphane, avec Le Fils de Jean de Philippe Lioret.
La clôture du Festival d'Angoulême, on y revient. Après Welcome et Tous les soleils, Lioret revient à une veine plus familiale, moins sombre, mais teintée de thriller. Ça lui avait porté bonheur, rappelez-vous, avec Je vais bien, ne t'en fais pas, il y a quelques années, dans lequel il y avait Mélanie Laurent et Can Merad. L'histoire, un jeune homme reçoit un jour un coup de fil qui lui annonce que son père, qu'il n'a pas connu, vient de mourir, qu'il était québécois et qu'il avait deux autres fils. Mathieu, c'est le nom de ce garçon, va donc s'envoler pour renouer avec un passé qui deviendra peut-être son avenir. Le talent de Lioret, c'est de réussir à transformer cette histoire de famille, cette pure histoire de famille, en vrai suspense.
La gageure, à chaque fois, elle est là, quoi. C'est de faire des films intimes sur l'intimité. Et que le spectateur n'ait pas l'impression d'être devant une toile blanche, mais dans l'histoire, avec les personnages, qui puissent dire « j'y étais », que le lendemain, ça lui reste. C'est ça, l'intimité qu'on peut avoir avec une histoire et des personnages. Mais que aussi il y ait une part de cinématographie et qu'il y ait cette dimension de thriller dedans qui nous tient en haleine pendant le film, plus une dimension que j'ai trouvée au Canada qui est cette espèce de gigantisme solaire qu'a ce pays. Une chose est sûre, c'est que là j'avais vraiment envie d'un film lumineux, solaire, souriant. L'histoire le portait en son sein.
Le Fils de Jean, donc avec Pierre Deladonchamp et de formidables acteurs québécois, dont Gabriel Arcan, à découvrir ce cinéma au cinéma ce mercredi. Je vais ajouter deux choses. Une curiosité qui mérite le détour, ça s'appelle Bloodfather de Jean-François Richet. Vous savez, c'est lui qui avait fait Mérine, notamment, avec Vincent Cassel. Là, c'est avec Mel Gibson, figurez-vous, en vieux truand apparemment rangé des voitures, qui va devoir retrouver ses réflexes pour sortir sa fille des griffes d'un gang de truands. C'est très classique, c'est très bien fait. Gibson, en plus, joue avec sa propre légende et ses films passés, comme L'Arme fatale. Quand les séries B sont assumées comme ça, eh ben, on en redemande. Et puis, si vous avez besoin d'un petit peu de douceur, je vous propose quelque chose qui à mi-chemin entre Nous deux et Jour de France. Ça s'appelle First Date. Une curiosité, hein, ça raconte la rencontre entre Michel et Barack Obama.
Oui, j'ai vu l'affiche.
Oui, voilà, c'est un petit peu ovni, mais ça mérite le coup d'œil s'il y a un petit besoin de tendresse en cette rentrée.
Mais on a toujours besoin d'un petit peu de tendresse, je ne vais pas vous dire le contraire. C'était donc Stéphane Boutsock. On passe aux audiences de notre soirée télévisée avec vous, Isabelle Morini-Bosque et Médiamétrie.
Eh bien, écoutez, ce sont les mêmes audiences que bien des mardis de vacances, c'est-à-dire 5 800 000 téléspectateurs étaient sur Camping Paradis sur TF1, un inédit hier. Et deuxième position, Quantico sur M6, décidément une bonne affaire pour la chaîne. 200 000 téléspectateurs, pardon, et 14% du public, donc sur M6. Et en troisième position, la nouvelle série britannique sur la 3, mais alors là, 2 600 000 personnes seulement. Était sur la chaîne pour voir Case Sensitive, faux semblant, 12% du public, presque jeu égal avec Secret d'Histoire sur la 2 et côté TNT. Alors, Inconnu au bataillon pour moi, D8, Tokarev, 652 000 téléspectateurs.
On vous retrouve à la fin de l'émission.
C'est pas mal.
Bien sûr, je sais pas pourquoi je ris bêtement comme ça.
Mais nous,
ça m'échappe totalement. Dans un instant, on va retrouver Charlotte Arrigoni avec nos Express. Hein.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Bonjour Charlotte.
Ravie de vous retrouver.
Ah ouais, vous avez de l'énergie, là. Alors, Catherine Deneuve débarque dans un format court sur Arte. Ce sera le 26 septembre prochain.
Ah oui, l'actrice a accepté de lire les tweets décalés de Loïc Prigent, un journaliste spécialiste de la mode, sur un fond noir, assis sur une chaise, fiche à la main. Catherine Deneuve enchaînera un florilège de citations drôles et loufoques prononcées dans le milieu des défilés. La pastille sera donc diffusée le lundi 26 septembre à 19h40 sur Arte. D'ici là, on découvre la bande-annonce.
Bienvenue dans l'asile psychiatrique ciel ouvert, le mieux habillé du monde.
C'est quoi comme tendance?
Stupide.
C'est qui, la styliste? Une vieille copine aveugle?
La collection était hyper pute. Je dis pute, mais c'est pas péjoratif, hein, dans ma bouche. J'adore cette mannequin. On dirait qu'elle va parler. On a une telle liste d'attente pour les stagiaires qu'ils ont 45 ans quand ils commencent chez nous. Eh ben oui. Elle va manger au flore. Ça lui donne l'impression de lire. C'est tellement moche, on dirait une fringue de l'an prochain.
Catherine Deneuve, donc très drôle à retrouver sur Arte le 26 septembre prochain.
Et puisqu'on parle de Catherine
Deneuve,
elle
a cette fantaisie.
Ah oui, vraiment. Elle tourne en ce moment avec Gérard Depardieu, figurez-vous. C'est leur 10e film ensemble. Ça s'appelle Bonne Pomme. C'est la rencontre d'un garagiste et d'une aubergiste. Ça promet.
Là, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Alors, Michael Bublé, lui, eh ben, il est bientôt de retour.
Oui, 3 ans après To Be Loved, le crooner publiera à l'automne un nouveau disque. Comme à son habitude, le Canadien mélangera des inédits et des reprises de standards. Cette fois, Michael Bublé revisitera plusieurs morceaux de Frank Sinatra qui aurait eu 100 ans cette année. La première chanson inédite de l'album a été dévoilée. Elle s'intitule Nobody But Me, extrait. Don't be cool, but don't be too nice, cause I want you. I need you all for me. Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me. Hey, we make beautiful music together. How you make my heart sing. Nobody but me, premier extrait donc du nouvel album de Michael Bublé.
On reprend nos bonnes habitudes du mercredi en consultant le palmarès des meilleures ventes de livres. Avec RTL et le magazine Express, est-ce que la rentrée littéraire bouscule déjà ce palmarès, Charlotte ?
Ah oui, Amélie Nothon s'empare de la première place avec son nouveau roman « Riquet à la houppe ». Un autre écrivain de la rentrée, Laurent Godet, se classe d'emblée 3e avec « Écoutez nos défaites ». Laurent Godet qui viendra d'ailleurs en parler ici même demain matin. Parmi les nouveautés qui tirent également leur épingle du jeu, il y a « Dieu n'habite pas la Havane ». Le livre de Yasmina Kadra prend la 7e place alors que la succession de Jean-Paul Dubois s'empare de la 11e place.
Un palmarès complet à retrouver dans l'Express de cette semaine. Alors, on le connaissait, grand footballeur ou encore consultant foot. Eh bien, David Ginola change de terrain de jeu en cette rentrée télévisée.
Oui, l'ancien joueur de l'équipe de France va remplacer Alex Good à la présentation de La France à un incroyable talent sur M6. Le tournage de la 11e saison a débuté vendredi dernier et David Ginola s'y sent très bien, d'autant que cela lui rappelle de vrais souvenirs de jeunesse.
C'est passé à autre chose et avoir rajouté une corde à son arc. Et puis, je trouve que c'est très bien. Puis, quand on a de l'empathie pour les gens, faire une émission comme ça, c'est très positif, recevoir des talents. Et ce qu'il y a, c'est que le fait que je sois passé par là, moi, par mon travail, quand j'étais en centre de formation, ils savent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui sait ce que c'est. Pendant des heures, des répétitions, parce que la réussite, c'est la pratique, la pratique et la pratique. Et ils s'installent une sorte de connivence entre nous. Je leur mens pas et ils savent que je leur mens pas.
David Ginola au micro RTL de Laurent Marsic. L'émission sera diffusée d'ici la fin de l'année sur M6. Côté jury, pas de changement. On retrouvera Éric Antoine, Hélène Ségara, Kamel Wally et Gilbert Rozon.
Je suis curieux de le voir, hein, Ginola, dans ses nouvelles fonctions.
En bref, bon jury aussi. Le retour de Mardi Cinéma en prime sur France 2, ce sera le 20 septembre prochain. Et c'est Laurent Ruquier qui sera aux manettes de cette nouvelle version qui était présentée dans les années 80 par Pierre Tchernia et Jacques Roulan.
On l'a appris dans la nuit, Gilberto Gil a de nouveau été hospitalisé à Sao Paulo.
Oui, la légende de la musique brésilienne âgée de 74 ans souffre d'une insuffisance rénale. Il y a 3 jours, Gilberto Gil avait dû annuler un de ses concerts à Rio de Janeiro pour raison de santé.
Merci beaucoup Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter. Monique Younes, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous emmenez ce matin en Corée du Nord grâce à la bande dessinée RTL du mois d'août qui a pour titre l'anniversaire de Kim Jong-il. C'est aux éditions Delcourt. Kim Jong-il, je le rappelle, était le chef suprême de la République populaire et démocratique de Corée de 1994 à 2011.
Et je peux vous dire qu'il ne s'est pas retrouvé là en passant par les primaires de la droite.
Non, plutôt... non plus celle de la gauche.
Bah, on n'en parle même pas. Alors en Corée du Nord, on est suprême de père en fils, c'est le Kim Jong-il dont il est question dans cet album, est vénéré par notre jeune héros, Jung-sang. Jung-sang est né le 16 février, le même jour de Kim Jong-il. Il a 8 ans, il est le chef des jeunesses patriotiques de son quartier et à l'école, il essaye de ne pas trop se faire dénoncer quand il dessine le chef suprême sur ses cahiers.
Pourquoi donc, Monique ?
Parce que le chef est sacré, c'est une quasi-divinité qu'on ne doit pas dessiner n'importe comment. Alors quand un enfant est pris avec un dessin du chef suprême, il doit se plier à une séance d'autocritique des plus rudes. À part ça, la vie en dehors de l'école est rythmé par des travaux agricoles, labourer la terre, remplir des charrettes d'excréments humains pour en faire des composts qui servent à nourrir des cultures. Un détail, comme dit l'auteur Aurélien Ducoudray.
On me dirait ça, non, attends, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? C'est affreux, quoi. Sauf qu'il se marre. Il se marre en faisant ça parce que c'est un truc collectif, il lui arrive des bricoles. Et je trouve que c'est pas éluder l'horreur que de la raconter comme ça. Je trouve que vu par ses enfants, il y a ce petit filtre de normalité qui nous permet de pas tomber tout de suite dans l'horreur. Et je pense que c'est bien pire après.
Ce qui est horrible pour nous ne l'est pas pour cet enfant qui n'a connu que ça. Et c'est là où réside toute la subtilité de cet album intitulé « L'anniversaire de Kim Jong-il ». La psychologie enfantine est parfaitement maîtrisée, universelle et bouleversante dans sa traduction. Car lorsque le petit Jong-sang apprend que son père est originaire de Corée du Sud, toutes ses illusions s'effondrent. Il a appris à lire, dans un ouvrage de référence intitulé « Le monde pourri est malade », une bande dessinée dans laquelle il est dit qu'il faut se débarrasser des fantoches du Sud et tuer ces chiens d'Américains. Précepte qui reste de vigueur, même quand la famine ravage le pays et que l'urgence première est de trouver de quoi manger. Manger n'importe quoi d'ailleurs.
Pendant la grande famille, il n'y a plus rien à manger. Les derniers chats ont été mangés aussi. Donc ils chassent les rats. Et ils en attrapent un et le petit héros, Jong-sang, lui dit « Non, ne le tue pas !» Les rats, ils ont à tous les coups un deuxième terrier où ils planquent du blé. Donc si tu le tues pas, on pourra le bouffer et on pourra bouffer le blé. Il y a un vrai côté de débrouillardise, d'intelligence dans un contexte qui est pas propice à ça du tout, quoi. C'est soit tu manges, soit tu crèves. Enfin voilà, un détail comme ça, on peut pas l'inventer. Par contre, quand on tombe dessus, c'est merveilleux, quoi.
Mais dites-moi, Monique, c'est une histoire véridique que raconte Aurélien Ducoudray.
Alors, l'idée lui est venue en lisant Le Rescapé du camp 14, oui. Un document tout à fait historique qui raconte comment un jeune Coréen du Nord a réussi à s'évader d'un des camps de travail du pays. Il s'est énormément documenté et il a acquis la conviction que la meilleure façon de raconter les horreurs de cette dictature était de passer par le regard innocent d'un enfant.
Je ne voulais pas faire une bande dessinée qui soit dénonciatrice, vraiment au premier degré, où on se prend tous les faits pleine tête et qu'on n'a pas vraiment envie de le lire, quoi. Là, c'est la vie d'un enfant qui nous raconte ce qui se passe à côté de chez lui. Je voulais un regard naïf, un regard d'enfant.
Et le dessin est de Mélanie Halak qui signe là sa première bande dessinée. La simplicité du style est bienvenue pour ne pas tomber dans le pathos, le sentimentalisme bourgeois décadent pourri dans lequel nous avons tendance à sombrer, chiens de capitalistes que nous sommes. Et le noir et blanc prend la place de la couleur quand la famille de Jong-sang, voulant fuir pour la Chine, se retrouve dans un camp de concentration. Est-ce que c'est dans cet enfer suprême que le petit Jong-sang va prendre conscience de la vraie nature du régime? Vous le découvrirez, je l'espère, en lisant L'anniversaire de Kim Jong-il, excellente bande dessinée du mois d'août à glisser par exemple entre les mains de nos enfants qui pleurent leur Pokémon.
Alors c'est une suggestion de votre chroniqueuse suprême et comme voilà. Nous avons à RTL beaucoup aimé cette bande dessinée, mais nous allons la faire gagner à nos auditeurs s'ils répondent à votre question, Monique.
Alors Kim Jong-il est le chef suprême de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud?
Et ben voilà, vous avez 10 minutes pour nous appeler au 3210.
On a le droit de la dessiner, Monique, par contre.
Ça serait bien de dessiner notre Monique. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Dans un instant, on parle de notre soirée télévisée.
Ça y est, commence à rêver.
On peut faire du nu, on peut faire toutes sortes de choses. Bon, allez, au 3210, vous nous appelez, tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
Et nous allons nous occuper maintenant de notre soirée télévisée avec vous, Isabelle Morelli-Bosque. Tiens donc, vous commencez par glorifier les scènes de ménage.
Parfaitement. Mm-hmm. En tout cas, n'exagérons pas, celle que propose M6, l'actualité étant riche, alors la vôtre aussi, sur LCI, vous avez peut-être pas remarqué le redémarrage lundi à 20h25 sur M6 de scènes de ménage, mini-fiction d'humour, montrant chaque jour le quotidien de couples de générations différentes, on connaît le principe. Mais les fidèles, eux, ils attendaient, voyez-vous. Mm-hmm. Ils sont 4 500 000 depuis lundi, record historique, avec un pic à 6 800 000, qui dit mieux? Ça mérite un extrait. J'ai choisi celui où la septuagénaire Huguette soumet son Raymond à la question.
Numéro de notre immeuble?
15.
On a combien d'enfants?
1.
Prénom?
Caroline.
Le nom du maire?
Henri Lefort.
Qu'est-ce qu'on a mangé à midi?
Sauté de vous.
Qu'est-ce que t'en as dit?
J'ai dit que c'était dégueulasse de tuer un animal pour ça.
Tiercé d'aujourd'hui?
14-7-4.
Couleur de ton pyjama?
Bordeaux.
T'as tout juste. Aujourd'hui, t'es à 100%. T'as aucun problème de mémoire.
Ah merde. Alors on nous a volé la bagnole.
Pour une fois que tu te souvenais où tu l'avais garé.
Voilà, une fois de plus, un format court qui en dit long. J'aime beaucoup.
Oui, c'est réussi. Alors ensuite, je sais que vous aimez aussi Alex Hugo sur France 2. C'est une série avec Samuel Le Bihan et Lionel Astier qui se déroule dans les Hautes-Alpes.
Oui, ça sent vraiment le sapin, la truite, la marmotte et les Delvailles sont les vrais héros de ce polar à part que moi j'aime beaucoup. C'est ce soir une rediffusion qui annonce les inédits des mercredis prochains. Et ce rappel, franchement, n'est pas inutile pour se le remettre en mémoire puisque depuis 2014, il n'y a eu que 6 épisodes. Ce soir, le flic Alex Hugo enquête sur d'étranges suicides, aidé par le flic gitan Batala, flanqué d'un neveu qui respecte rien et surtout pas la pêche d'Alex Hugo.
Non mais va encore plus loin la prochaine fois. T'as vu les truites? Non mais t'es taré ou quoi?
De quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Il pêche!
Et alors? On va pas rester là, y a rien ici.
Y a nous! Tu vas m'aider à monter la tente.
Alors là, dans tes rêves, moi je dors pas là.
Et va pas fumer dans les bois, hein?
Ouais, t'as raison.
Il commence à me faire chier, je te le dis, hein.
Parle-lui.
Ah, parce que tu crois qu'il m'écoute? Non mais vas-y, va, montre-moi.
Bah, ça doit pas être bien compliqué.
Monsieur l'éducateur, là. Eh, tu la connais, celle des deux vieux cons qui n'ont pas d'enfants puis qui essayent d'éduquer ceux des autres?
Voilà, au fait, qui sont Alex Hugo et Batala, joués donc par Samuel Lubien et Lionel Astier, aussi montagnard au départ que moi je suis haltérophile? Ben, le plus simple, c'était de leur demander. D'abord, Samuel Lubien, tiens.
Alors moi, je vais parler d'Alex Hugo, qui est un ancien de la BAC de Marseille et qui, trop sensible à tout ce qu'il a rencontré en termes de violence humaine, finalement s'est retiré à la montagne. Donc il a réussi à avoir un poste de l'équivalent d'un garde champêtre. Sauf que dans la montagne, il se passe des affaires, évidemment. Pour ça, il est accompagné de Lionel Astier, Batala. Oui, c'est un petit peu le même parcours. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il a connu une bavure, quand même, lui. Hein, tu veux pas le dire, ça?
Non.
Je suis son chef, en fait. C'est un ami et je le gère. Je sais qu'il a une intuition. Donc, mon travail consiste souvent à faire le fusible entre lui et les vrais, quoi. Enfin, les vrais, les officiels, quoi.
Alors, l'avantage d'une collection, c'est que c'est rare. L'inconvénient d'une collection, c'est que c'est rare. Autrement dit, c'est difficile de mémoriser les héros, hein.
Oui, c'est vrai. Enfin, je crois que la chaîne veut se réserver la liberté de diffuser ça dans l'ordre qu'elle veut. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, bah, c'est comme ça. Hein.
Ce sont des petits films complètement indépendants. Ce qui est beau, c'est que c'est des réalisateurs différents, des scénaristes différents. Donc chacun s'empare de l'objet. On se rapproche pour beaucoup du western. C'est-à-dire des grands espaces. En France, on a les décors. Finalement, on peut jouer avec ses codes. Et il faut passer le micro de l'un à l'autre et c'est un exercice physique périlleux.
On est obligé d'aller chercher ce qu'on a. On a besoin d'une battue, ben on va aller chercher les chasseurs. Et ben ils ont un regard à fond, les chasseurs. Ils sont pas toujours d'accord. On a besoin d'un chien pour suivre une piste. On va aller chercher le chien de machin qui habite là-bas au fond de la vallée. On revient dans le western, comme quand le shérif fait une battue puis qu'il distribue les étoiles au saloon en disant bon ben toi t'es mon adjoint maintenant. Il y a un peu ça.
Vous savez quoi, c'est pas faux. Alors une image avait beaucoup frappé le public, c'est celle d'un aigle qui se posait à côté du héros. On suppose bien sûr que c'est pas un hasard. Hein.
Voilà.
C'est un rapace acteur. C'est d'ailleurs formidable parce que c'est un vrai aigle, c'est sublime, hein, qui était capable de se poser juste à côté de moi, enfin qui était dressé, mais c'est impressionnant, hein. C'est vraiment un animal sublime. Et donc voilà, le dresseur est venu à 2000 mètres d'altitude avec son aigle, qui était proche de d'autres aigles aussi qui volaient dans les parages, donc on se demandait s'il se répondait quand il criait justement.
Donc 20h55 les deux, alors petit détail, l'un des réalisateurs s'appelle Pierre Isoard, c'est crétin mais ça m'amuse parce que l'Isoard c'est précisément un col des Hautes-Alpes,
bah oui.
2300 et quelques mètres d'altitude. J'adore ce genre de trucs qui servent à rien.
Voilà, mais vous savez que c'est votre esprit, donc nous ça nous fait plaisir.
Sauf que Isoard ça s'écrit avec un Z, le col, si je puis me permettre.
Alors, le col de l'Isoard, ce ne sera pas une étape du Tour de France, mais la dernière étape de ce Laissez-vous tenter. À tout de suite pour savoir si vous avez gagné des bandes dessinées.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Résumons la situation. Pour gagner la bande dessinée RTL du mois, il fallait répondre à la question suivante. Kim Jong-il est-il le chef suprême de la Corée du Nord ou de la Corée du Sud? Réponse de Monique Younes.
Corée du Nord.
Ben voilà. Et ça paraît aux éditions Delcourt Mirage. Et vous avez adoré cette bande dessinée.
Mais vraiment, c'est une bande dessinée poignante que je vous recommande.
Voilà. On se sera presque tout dit si je vous rappelle que demain, notre invité sera l'écrivain Laurent Godet. Son livre « Écoutez nos défaites » est paru aux éditions Actes Sud. Il est d'ores et déjà un très gros succès. Il vous sera recommandé, bien entendu, par notre camarade Bernard Lehu. Merci à toute l'équipe. Et maintenant, on va retrouver Julien Courbet.
J'ai bu un coup avec Laurent Godet, très sympa. Vraiment. Mais vous allez vous régaler. Mais là, je suis plutôt... moi, je ne savais pas.
Oui.
Notre président... vous avez vu la une de l'équipe?
Non.
Bah, le président d'RTL va jouer au foot à Nice. Ils ont engagé Mario Baldelli, apparemment.
C'est Balotelli.
Balotelli.
Mais oui. Vous n'avez pas remarqué qu'ils n'avaient pas exactement le même physique, tous les deux.
Ils ont un physique de sportif, tous les deux, mais oui. Je ne l'avais jamais vu jouer comme ça. D'accord, voilà. Excusez-moi, autant pour moi.
Il n'y a aucun problème, je vous en prie, vous pouvez faire une petite erreur, ce n'est pas grave.
Bah, ça peut arriver à tout le monde. On vous souhaite une bonne journée à tous.
Bonne journée, Julien.